Bien, je vous remercie tous d'être venus. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre annoncé la semaine précédente par souci pédagogique. Il est donc celui de la première intifada, c'est-à-dire que nous commençons de plus en plus à nous rapprocher du temps présent. Comme pour toute explosion inattendue, il est facile postérieurement d'en retracer les signes prémonitoires. C'est exactement comme pour le printemps arabe, les historiens ont été parfaits pour prédire le passé. Et ensuite, nous avons discerné tous les signes prémonitoires, mais sur le moment, nous n'avons rien vu. Rien vu venir, évidemment. Alors, d'une part, on trouve l'exaspération croissante de la population des territoires occupés après 20 ans d'occupation, de répression et de colonisation, c'est-à-dire que plus qu'une génération entière n'a connu que l'occupation israélienne. D'autre part, à l'activisme d'Abu Jihad, travaillant à rétablir le rôle du Fatah dans les territoires en établissant des relations avec toutes les forces activistes, correspond aussi la volonté des frères musulmans, soumis à la concurrence active du djihad islamique, de passer à la lutte armée. Évidemment, les uns et les autres revendiqueront la paternité du soulèvement, qui est d'abord un mouvement spontané. Et un mouvement spontané, ça explose à la suite d'un incident. Mais un simple incident ne justifie, n'explique pas tout, loin de là. C'est, comme on dit, c'est l'étincelle qui fait déborder le vase ou autre expression du même genre. Le 6 décembre 1987, un commerçant israélien est assassiné à coups de poignard à Gaza. C'est le deuxième en une semaine. Dans l'après-midi du 8 décembre, près du camp de Jabalia, un camion israélien percute une voiture transportant des ouvriers palestiniens, ce qui fait 4 morts et plusieurs blessés graves. Immédiatement, la rumeur se répand qu'il s'agit d'un acte de représailles pour la mort du commerçant. Le soir même, au retour des funérailles des victimes, la foule s'en prend au poste militaire israélien qui contrôle le camp de réfugiés. Le lendemain matin, le camp de Jabalia est en état d'insurrection. Les manifestants lancent des pierres sur les militaires qui tentent d'en reprendre le contrôle. Pour se dégager, les militaires tirent sur la foule, faisant 2 morts. Dans la journée, les émeutes s'étendent à l'ensemble de la bande de Gaza. Pour l'instant, le commandement israélien ne voit dans cette affaire qu'une brève explosion de violence et qui se terminera par l'inévitable retour à l'ordre. Et le 10 décembre, Rabin, qui est ministre de la Défense, se rend comme prévu aux États-Unis pour discuter avec son homologue américain. Shamir, qui n'a aucune expérience militaire, exerce l'intérim du ministère de la Défense pour une quinzaine de jours. Or, maintenant, le soulèvement s'est généralisé à l'ensemble de la Cisjordanie. On compte plusieurs morts chez les Palestiniens. À partir du 11 décembre, on s'installe dans la violence avec ce spectacle des jeunes lanceurs de pierres avec des keffiyehs pour dissimuler leur visage comme sur cette photo qui représente un des innombrables incidents de l'intifada. 3 faits essentiels sont à retenir dès ce moment. Le premier est qu'outre l'exaspération des intéressés, le moteur de la protestation est la fin de la peur. fin de la peur. Enfin, j'ai discuté récemment avec des gens qui avaient manifesté dans le printemps arabe. Ils m'ont dit que ce n'était pas la fin de la peur, mais c'était la conscience que l'on pouvait prendre des risques et que ça valait la peine de prendre des risques. Et c'est plutôt peut-être une formule meilleure que la fin de la peur, parce que les gens ont malgré tout peur. Les manifestants se servent de projectiles, surtout des pierres et des cocktails Molotov, mais chose importante, il n'y a pas d'usage d'armes à feu. Et les lanceurs de pierres sont surtout des jeunes gens. Le second fait essentiel est l'immédiate couverture des événements par la presse internationale, en particulier par les télévisions. La comparaison la plus courante est celle de la situation en Afrique du Sud. Gaza est assimilé au grand ghetto noir de Soweto, ce qui scandalise les Israéliens qui voient de l'antisémitisme dans un tel rapprochement. L'image qui vient à l'esprit de tous, du fait de l'usage des pierres, est celle d'un David palestinien face à un Goliath israélien. Un David palestinien face à un Goliath israélien, pardon, lapsus d'écriture, corrigé immédiatement. La disproportion des forces en présence frappe les imaginations. Les Israéliens ont beau expliquer que les jets de pierre constituent une menace mortelle pour leurs soldats, l'absence de morts dans leurs rangs contraste vivement avec le nombre croissant de victimes palestiniennes. Le troisième fait est l'implication des islamistes. Le premier tract du soulèvement est daté du 9 décembre et est signé du djihad islamique. Rempli de références religieuses, il appelle au djihad considéré comme un devoir pour tous les musulmans palestiniens. Le second tract islamiste est probablement du 14 décembre et est signé du mouvement de la résistance islamique. Al-Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, mouvement jusque-là inconnu. La rhétorique comprend tout aussi bien des éléments nationalistes que des référents religieux et porte sur la situation concrète de la population. Je cite : Il faut que les Juifs comprennent, malgré leurs chaînes, leurs prisons et leurs centres de détention, malgré les épreuves qu'endure notre peuple sous leur occupation criminelle, malgré les torrents de sang qui y jaillissent chaque jour, malgré les blessures, eh bien oui, notre peuple est plus fort qu'eux dans l'endurance et la détermination face à leur iniquité et leur arrogance. Qu'ils sachent donc que la politique de la violence ne rencontrera que plus de violence encore de la part de nos fils et de nos jeunes, dont le désir des jardins de l'éternité est beaucoup plus fort, en effet, que le désir de la vie d'ici-bas manifesté par nos ennemis. Donc on a déjà comme premier thème du tract la répression elle-même et la vie quotidienne ainsi que éventuellement le désir de martyr. Le tract continue en abordant la question politique et utilise l'expression « intifada » pour signifier « soulèvement ». Le soulèvement de notre peuple sur la terre occupée constitue le rejet de l'occupation et de ses pressions, rejet de l'expropriation des terres et de la création de colonies, rejet de la politique de répression menée par les sionistes. Il arrive pour réveiller la conscience de ceux qui courent à bout de souffle derrière la paix malingre, derrière les conférences internationales creuses, derrière les traîtresses conciliations séparatistes dans la ligne de camp des vides. Ils ont la certitude que l'islam est la solution et l'alternative. Fin de citation. On reprend dans le texte l'assimilation, l'identification entre juifs et sionistes, ce qui est d'ailleurs le discours officiel de l'État d'Israël, et on renvoie l'accusation de nazisme. Je cite : À l'intention des sionistes criminels, Levez vos mains de notre peuple, de nos villes, de nos camps de réfugiés, de nos villages. Notre combat contre vous est un combat de foi, d'existence et de vie. Que le monde sache que les Juifs commettent des crimes nazis contre notre peuple et qu'ils boiront à la même coupe. » Fin de citation. Donc, si à la mi-décembre, les intéressés commencent à utiliser le terme d'intifada, l'armée israélienne refuse d'admettre qu'elle doit faire face à une insurrection populaire. Il faut admettre que la direction de l'OLP à Tunis partage le même avis que les militaires israéliens, à l'exception d'Abu Jihad, qui fait passer le mot d'ordre à toute la mouvance du Fatah de participer au mouvement. Autrement dit, l'OLP, comme les frères musulmans, rejoignent un soulèvement dont ils n'ont pas été les organisateurs, ou en tout cas qu'ils n'ont pas créé, mais dont vont devenir progressivement et même assez rapidement les organisateurs. L'armée israélienne envoie des renforts dans les territoires, alors que le mouvement s'étend maintenant à Jérusalem-Est et que les Arabes israéliens manifestent leur solidarité. L'opinion publique arabe manifeste aussi son soutien, tandis que les pays occidentaux expriment leur embarras devant l'agitation, entre guillemets, qui secoue les territoires. Les États-Unis demandent à l'armée israélienne d'agir avec retenue. Dans les milieux dirigeants israéliens, on se renvoie la responsabilité de n'avoir rien vu venir. On ne veut pas admettre que l'on a été intoxiqué par sa propre propagande, présentant une occupation heureuse et bénéfique pour les intéressés. Les militaires expliquent qu'ils sont chargés du maintien de l'ordre et non des questions politiques, ce qui est plus qu'exagéré étant donné qu'ils ont la charge des territoires depuis le début de l'occupation. On commence à s'inquiéter de la dégradation de l'image d'Israël à l'extérieur. Shamir exprime bien la situation le 21 décembre 1987. Je cite « L'ordre et la sécurité pour les habitants de ce pays sont des impératifs plus importants que l'image négative que l'on présente de nous dans les médias internationaux. En voyant ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie depuis 10 jours, on a l'impression de voir Gulliver enchaîné par des lupiciens qui l'attaquent et dont le moindre effort pour se dégager provoque aussitôt une réprobation unanime dans le monde entier. » Fin de citation. Le même jour, à son retour des États-Unis, Rabin accuse l'OLP d'être derrière le mouvement et promet un durcissement de la répression en faisant référence à la main de fer, ce qui rappelle la période la plus noire de l'occupation israélienne du Liban. Je cite « Tsahal utilisera de toute sa force pour s'assurer que ceux qui perturbent l'ordre payent cher le prix de leurs actes. Nous ne permettrons pas à l'OLP de ramener ses objectifs au centre de l'arène internationale. Nous devons faire comprendre aux Arabes qu'ils n'obtiendront rien par la menace, le terrorisme et le désordre. Malgré tous les regrets et la douleur pour les pertes en vie humaine, ceux qui participent à des manifestations violentes doivent savoir qu'ils prennent des risques importants. Il est possible que ces paroles ne soient pas sympathiques aux oreilles du monde, mais je préfère prendre des mesures nécessaires au retour de l'ordre, même si cela devrait nous causer quelques dommages dans l'opinion publique israélienne. En ce qui concerne les Arabes d'Israël, la main de fer sera également appliquée à l'intérieur de la ligne verte contre des phénomènes violents de perturbation de l'ordre. » Fin de citation. Donc on a une référence à cette main de fer appliquée au Liban. Après avoir obtenu un adoucissement du contenu d'un projet de résolution présenté par les non-alignés, les États-Unis s'abstiennent lors du vote de la résolution 605 du 22 décembre 1987. La résolution fait référence à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et rappelle l'application de la Convention de Genève pour la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Conseil se déclare, je cite, gravement préoccupé et alarmé par la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. tenant compte de la nécessité d'envisager des mesures en vue d'assurer de façon impartiale la protection de la population palestinienne civile soumise à l'occupation israélienne, considérant que les politiques et pratiques actuelles d'Israël, puissance occupante dans les territoires occupés, ne manqueront pas de porter gravement atteinte aux efforts faits pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient. 1. Déplore vivement ces politiques et pratiques d'Israël, puissance occupante, qui violent les droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l'armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens sans défense. 2. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. 3. Demande une fois de plus à Israël, puissance occupante, de se conformer immédiatement et scrupuleusement, de se conformer immédiatement à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et de mettre fin sur le champ à ces politiques et pratiques qui sont contraires aux dispositions de la Convention. La première résolution, préoccupation de Rabin, est d'empêcher que le 1er janvier, anniversaire du début des opérations du Fatah en 1965, soit l'occasion d'une manifestation massive. Des renforts considérables sont envoyés dans les territoires et un millier d'arrestations ont lieu. Les meneurs sont sanctionnés de lourdes peines et on menace de déporter les plus activistes. Grâce à l'ampleur des moyens utilisés, aucune manifestation ne parvient à se former. Pour les trois dernières semaines de décembre, on est à plus de 20 morts dans les territoires, les décomptes divergents selon les sources. Et c'est à ce moment-là qu'on passe progressivement de l'incident au soulèvement lui-même. La démonstration de force, l'usage de déportation et les destructions de maisons doivent, selon Rabin, rétablir la capacité de dissuasion de l'armée israélienne. Parallèlement, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1988, une série de raids aériens au Liban contre des positions du FPLP-CG et du PSP font 21 morts, dont 7 femmes et 5 enfants, et un grand nombre de blessés. Ces représailles sont attendues depuis l'opération du FPLP-CG en Galilée peu de jours auparavant et appartiennent à la même logique de dissuasion. Les États-Unis ont marqué leur hostilité à la politique d'expulsion, mais Rabin et le gouvernement israélien sont décidés à passer outre. Le 2 janvier 1988, 9 arrêts d'expulsion sont signés contre, je cite, des dirigeants actifs impliqués dans l'organisation d'options subversives pour le compte de groupes terroristes. Fin de citation. 5 appartiennent au Fatah et 4 à la mouvance islamique. La porte-parole de l'armée israélienne reprend l'ancienne de l'absence de choix. Je cite. Nous n'avons pas le choix, nous avons pris la mesure la plus dure pour combattre les gens les plus durement impliqués dans les désordres. Fin de citation. Immédiatement, la Jordanie saisit le Conseil de sécurité. Au débat du 5 janvier à New York, pour la première fois, malgré l'opposition américaine et l'abstention européenne, le représentant de l'OLP est invité à participer au débat en bénéficiant des mêmes droits qu'un représentant d'un État membre, c'est-à-dire selon l'article 37 et non selon l'article 39 du règlement intérieur du Conseil de sécurité. Le représentant israélien, Benjamin Netanyahu, affirme que la mesure se fonde sur la nécessité de rétablir l'ordre public, sur la législation héritée du mandat britannique, et qu'Israël reconnaît la Convention de Genève non dans son application aux territoires occupés, mais non son application dans les territoires occupés, sauf dans ses aspects humanitaires, ce qui est à peu près une phrase vide de sens. Ensuite, la résolution 606 est immédiatement votée à l'unanimité. Elle reprend les termes de la 605 et engage Israël à s'abstenir d'expulser des civils palestiniens des territoires occupés. Dans son explication de vote, Le représentant américain explique que si son pays reconnaît qu'Israël est chargé du maintien de l'ordre public, l'expulsion est contraire à la Convention de Genève, qui interdit, quel qu'en soit le motif, une mesure de ce genre. Il précise que l'expression « territoire palestinien et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem », n'a qu'une valeur descriptive et démographique et n'est pas indicateur de souveraineté. Le représentant palestinien s'offre le plaisir de rappeler que la législation répressive britannique à laquelle font référence les Israéliens avait été définie par les sionistes en 1945 comme étant pire que la législation nazie. Retour de flamme. Yasser Arafat fixe comme objectif au soulèvement la fin de l'occupation israélienne et la constitution d'un État palestinien indépendant, éventuellement dans le cadre d'une confédération régionale qui pourrait même comprendre Israël. Il envisage publiquement la possibilité de la formation d'un gouvernement palestinien en exil, puis s'en tient à la réunion d'une conférence internationale sur la base de toutes les résolutions de l'ONU et où l'ONP serait partie prenante en égalité avec les autres parties. Il propose aussi de mettre temporairement les territoires sous tutelle de l'ONU. L'accalmie relative ne dure pas. Dès le 5 janvier, les violences reprennent à Gaza. Le même jour, Hanna Signora, rédacteur en chef du quotidien de Jérusalem Al-Fajr, l'Aube, est considéré comme un proche de l'OLP, appelle à un vaste mouvement de désobéissance civile et de boycott des produits israéliens. Shimon Peres se fait menaçant, je cite. Je ne pense pas que cette campagne aura lieu car les résidents des territoires connaissent les limites à ne pas dépasser. Quiconque fomente la rébellion aggrave la situation. Et je sais que les Palestiniens sont très sensibles au risque de devoir quitter leur territoire. Fin de citation. Le 10 janvier paraît le premier communiqué du commandement national unifié de l'intensification du soulèvement. Mot soulèvement étant traduisant le terme « al-intifada », qui fait l'éloge des martyrs et appelle à la grève générale et à la désobéissance civile. Je cite « Que toutes les rues soient fermées aux forces d'occupation, que l'entrée des camps de réfugiés et des principales agglomérations soit interdite aux lâches soldats par l'établissement de barricades palestiniennes et l'incendie de pneus, que les pierres palestiniennes s'abattent sur la tête des soldats d'occupation en déroute et celles de leurs collaborateurs, que les drapeaux palestiniens soient hissés sur les minarets des mosquées et les églises, sur les terrasses des demeures, sur les fils électriques et en tout lieu, que soit vaincu par la désobéissance aux décisions de couvre-feu imposées aujourd'hui ou demain, le siège imposé aux camps de réfugiés de notre peuple. Peuple de martyrs, colosse en révolution, Lionceau, Lionceau c'est le nom de l'organisation de jeunesse du Fatah, jeunes gens et étudiants, nos ouvriers, nos paysans et nos femmes, chers, hommes de religion et imams des mosquées, notre peuple tout entier. Que la terre brûle sous les pieds des occupants, que le monde entier apprenne que le soulèvement mis en éruption par le peuple de Palestine ne se calmera que par l'achèvement de l'indépendance d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Fin de citation. Ce commandement unifié regroupe toutes les composantes de l'OLP et travaille à organiser le soulèvement en constituant des comités destinés à remplacer l'administration civile en voie d'effondrement. Il est composé de représentants clandestins du Fatah, du FDLP, du FPLP et du Parti communiste et agit en liaison avec le groupe des personnalités de Jérusalem. Ce dernier fait la jonction par fax avec Tunis, par le biais d'un bureau à Paris. Arafat, dans ses déclarations publiques, utilise aussi le terme de soulèvement intifada, repris par la presse arabe, alors que la presse occidentale n'utilise encore, au mois de janvier, que le terme d'agitation. Donc, vous voyez les étapes successives de propagation du mot intifada. Le premier, ce sont par les acteurs eux-mêmes sur le terrain. Ensuite, dans une seconde phase, c'est la presse arabe qui reprend le terme. Et puis ensuite, quelques semaines après, ce sera l'ensemble de la presse internationale qui reprend le terme. Le communiqué suivant du commandement unifié explicite la référence à l'ONP. Représentant légitime et unique du peuple palestinien, elle est l'adresse pour l'identité nationale, pour l'autodétermination et l'édification de l'État palestinien indépendant. Fin de citation. À la mi-janvier, le mouvement de la résistance islamique répond au commandement unifié. Il exalte aussi les martyrs à qui le paradis est promis. Début de citation. Tous refusent l'occupation et le fait accompli. La virulence du soulèvement augmente jour après jour l'iniquité de l'occupant et la tyrannie du criminel. Ils prennent d'assaut les mosquées, ils emprisonnent sans pitié, ils jettent des bombes sophistiquées pour réprimer le mouvement béni, ils dépêchent leurs soldats par milliers pour éteindre l'incendie, ils prennent d'assaut les camps de réfugiés avec les chars, ils interdisent à la presse la plupart des endroits pour l'empêcher de couvrir les événements. Fin de citation. Si les deux forces s'accordent pour rejeter l'initiative des Américains et de leurs alliés arabes qui ignorent la représentation palestinienne, la divergence profonde réside dans la question de l'État palestinien. Le mouvement de la résistance islamique veut la libération de toute la Palestine. Je cite. Pour finir, non à l'entité sioniste, non à l'occupation juive, non au bannissement, non aux emprisonnements, non à la tyrannie, non à l'abandon du moindre atome de notre terre de Palestine. Fin de citation. Le troisième groupe est composé, donc représentant de l'intifada, donc le commandement unifié et le mouvement de la résistance islamique, donc le troisième est composé par les personnalités indépendantes, mais proches de l'ONP. On peut les considérer comme des compagnons de route du Fatah, tout en n'étant pas officiellement affiliés au mouvement pour des raisons de sécurité, ce qui leur donne par ailleurs une certaine marge de manœuvre par rapport à la direction palestinienne en exil, avec qui elles entretiennent des relations par fax. Donc il faut rappeler, si vous voulez, on avait dit que le nasserisme avait existé essentiellement grâce à la radio. La révolution islamique iranienne s'était diffusée par le biais des cassettes. L'intifada, elle, se coordonne par fax. Ceci pour rappeler aux plus jeunes qu'avant Facebook et Twitter, il existait déjà des moyens de communication. Donc, ces personnalités sont en relation régulière avec les consulats généraux occidentaux de Jérusalem et maintiennent un dialogue difficile avec un certain nombre d'interlocuteurs israéliens, comme Faisal al-Husseini est en détention administrative, arrestation sans jugement, Sarid Nusaybe est l'élément le plus important du groupe. Ces personnalités tiennent une conférence de presse à Jérusalem le 14 janvier au nom des institutions nationales et avancent une liste de 14 revendications qui comprennent l'application de la Convention de Genève et des résolutions 605 et 607, la libération des prisonniers politiques, la fin des mesures de répression, l'arrêt de la colonisation et des confiscations de terres, la suppression des diverses mesures israéliennes restreignant les activités économiques palestiniennes. Leur approche paraît pragmatique, puisque les points 10 et 14 ne vont pas plus loin que la liberté d'expression publique. Je cite, point 10, annulation de toutes les mesures de restriction imposées aux droits d'expression politique et sociale, et possibilité d'organiser des élections municipales libres sous la supervision d'une autorité neutre. Point 14, levée des restrictions imposées sur les contacts politiques entre les citoyens des territoires occupés et l'ONP afin de permettre aux Palestiniens des territoires occupés de participer aux travaux du Conseil national palestinien, et cela en vue de leur participation à la prise de décision qui concerne la question palestinienne. Le 13 janvier, les quatre premiers déportés, dont Jibril Rajoub, un activiste qui a passé 14 ans dans les prisons israéliennes, arrivent au Liban. Ils vont grossir le nombre des conseillers d'Arafat pour les territoires occupés. C'est-à-dire que les expulsions israéliennes permettent d'étoffer l'équipe de Palestiniens en exil chargée de la gestion des territoires occupés, puisqu'ils apportent des informations fraîches, une meilleure connaissance du terrain, et ainsi de suite. La résolution 608 du Conseil de sécurité, adoptée par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis, demande à Israël d'annuler l'ordre d'expulsion des civils palestiniens et d'assurer le retour immédiat en toute sécurité dans les territoires palestiniens occupés de ceux qui ont déjà été expulsés, et prie Israël de cesser immédiatement d'expulser d'autres civils palestiniens des territoires occupés. Le 15 janvier, de violents incidents éclatent à Jérusalem. La police israélienne pénètre sur l'esplanade des mosquées et même à l'intérieur d'Al-Aqsa. Dans le monde musulman, on parle de profanation. Inquiet de l'impact médiatique de l'usage des armes à feu par les militaires israéliens, Rabin ordonne de fournir des matraques aux soldats. Il s'agit de battre et non de tuer, mais les instructions sont particulièrement vagues. De fait, les soldats israéliens, profondément exaspérés d'avoir à jouer le rôle de maintien de l'ordre, rouent de coups non seulement les manifestants, mais tout violateur des règlements de répression, voire de simples passants ou des familles entières, y compris vieillards, femmes et enfants, lors des perquisitions. On attribue à Rabin une déclaration selon laquelle il fallait briser les os des manifestants. L'intéressé a ultérieurement démenti avoir tenu ses propos, mais cela correspond bien au sens général de ces consignes. On a aussi dit que ce n'était qu'une simple métaphore malheureusement prise à la lettre, mais quand on voit le sens donné à la métaphore de la main de fer, on peut légitimement en douter. On se rappelle d'ailleurs que depuis le début, la politique israélienne dans les territoires a été définie comme celle de la carotte et du bâton. Donc, très symboliquement, on retombe sur le bâton. Rabin a beau affirmer que l'on pourrait discuter de l'aspect politique des choses une fois l'ordre rétabli et qu'Israël ne négociera pas sous la pression, les intéressés savent parfaitement que durant 20 ans, le calme relatif, Israël n'a jamais eu besoin de négocier et que Rabin s'est opposé publiquement à la création d'un troisième État entre la Jordanie et Israël, à un retrait unilatéral, à l'annexion et au dialogue avec l'OLP. Sa position s'en tient toujours à une option jordanienne fondée sur le plan Alon. Quant à l'émergence d'une direction palestinienne indépendante dans les territoires de l'OLP, elle va contre sa pratique de déportation et d'arrestation administrative sans jugement, comme le montre le sort accordé à Faisal al-Husseini. Autre moyen de pression, la position de long couvre-feu afin d'étouffer économiquement les populations et les forcer à céder. Le tout semble être résumé dans une déclaration de Rabin à la radio israélienne le 19 janvier 1988, je cite. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de faire usage de la force, de la puissance et des coups pour empêcher les manifestations et les violences. Fin de citation. Ils prônent une sorte de blocus alimentaire pour mettre fin aux grèves des commerçants. Début de citation. Nous ne permettrons aucun soutien en denrées de base venant de l'extérieur de la part d'aucun pays, d'aucune organisation, car les denrées alimentaires existent et il n'y aura plus de pénurie lorsque tous les magasins seront ouverts. Fin de citation. Le but proclamé est d'utiliser la force pour établir l'ordre israélien et mettre fin à la désobéissance civile qui se traduit par le refus de payer les impôts et le rejet des ordres de l'administration israélienne. La fermeture volontaire ou forcée des institutions palestiniennes renforce la place des mosquées comme lieu d'information ou d'organisation. Cette politique qui conduit plusieurs centaines de Palestiniens à l'hôpital provoque immédiatement de nombreuses réactions internationales à la grande indignation de Rabin qui reconnaît le 26 janvier l'existence de bavures tout en affirmant, je cite, « L'ensemble des mesures prises telles que couvre-feu et les coups a eu l'impact que nous désirions provoquer la peur au sein de la population. » Fin de citation. De nombreuses personnalités juives américaines s'indignent, tout aussi bien des gens occupant des fonctions institutionnelles que des artistes comme Woody Allen. Donc là, vous avez des images de répression de ce mois de janvier 1988. Le Conseil de sécurité est saisi, mais un veto américain le 29 janvier met fin au débat. Au début de février, les efforts d'organisation du soulèvement par l'OLP commencent à se faire sentir. Les consignes du commandement unifié sont respectées. Les chrétiens palestiniens se rallient massivement au mouvement. La désobéissance civile se généralise. L'administration des territoires, municipalités, police, se désagrège. On s'en prend aux collaborateurs notoires des occupants et leurs informateurs supposés. Au mieux, ils doivent faire acte public de repentance. L'armée israélienne tente par la force de rétablir la dépendance de la population palestinienne envers l'autorité. On s'installe dans une guerre d'usure entre les deux parties. Ainsi, les Israéliens ferment tous les établissements scolaires et universitaires de la Cisjordanie. Immédiatement se mettent en place des réseaux d'enseignement de substitution, mais cela conduit surtout plus de jeunes gens à mettre plus de jeunes gens en face des soldats israéliens. Si vous fermez les écoles, vous trouvez plus de manifestants. Les étudiants politisés rentrent dans leur foyer et fournissent les cadres des comités locaux. À long terme, cette politique israélienne aura des conséquences désastreuses pour la stabilité sociale des territoires, créant un groupe social de déscolarisés prompt à basculer dans la délinquance. Une grève générale le 8 février célèbre la fin du deuxième mois du soulèvement. On est maintenant à plus de 40 morts du côté palestinien. Une petite frange de l'opinion publique israélienne composée de progressistes manifeste contre la brutalité de la répression, mais la droite israélienne représente la majorité quand elle condamne la mollesse des militaires israéliens et s'indigne contre la réprobation internationale immédiatement taxée d'antisémitisme. Du côté palestinien, les pro-syriens s'organisent. Une station de radio, La Voix de Jérusalem, émet à partir des territoires syriens et a une forte audience. Les différents mouvements diffusent des mots d'ordre et les encouragements patriotiques par le biais de cassettes, comme lors de la révolution iranienne. Alors, on va repasser maintenant sur le champ diplomatique avec ce qu'on appelle l'initiative Schulz. L'une des règles essentielles de la question de Palestine est que tout changement de la situation sur le terrain suscite immédiatement des initiatives diplomatiques cherchant à créer une nouvelle dynamique grâce à la rupture du statu quo. L'Égypte est la première à agir. Le régime de Moubarak doit faire face à un contre-coup intérieur de soulèvement, l'opinion publique soutenant massivement la cause palestinienne à un moment où, après le sommet d'Amman, l'Égypte est en train de réintégrer le monde arabe, l'Iran arabe. Dès la mi-janvier 1988, le gouvernement égyptien propose l'arrêt de toute forme de violence et de répression dans les territoires pour une période de 6 mois, accompagnée de la fin de toute activité de colonisation, le respect des droits politiques et des libertés des Palestiniens sous occupation, la protection de ce peuple par des mécanismes internationaux et la réunion d'une conférence internationale qui assurera le droit de tous les États de la région à vivre en paix et permettra au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination. Pratiquement en même temps, l'Union soviétique propose que les membres permanents du Conseil de sécurité entament des consultations en vue de préparer une conférence internationale de paix au Proche-Orient. Le principe d'une conférence est aussi avancé par le secrétaire général de l'ONU et par le Conseil de la Ligue des États arabes. Pérez approuve l'idée de conférence qui doit servir de cadre à des négociations directes et celle d'une trêve, mais non les autres propositions égyptiennes. Chami rejette toute idée de conférence et de retrait. Shultz, donc le secrétaire d'État américain, voit dans les événements en cours la possibilité de contourner l'OLP en suscitant l'émergence d'une direction palestinienne issue directement des territoires. La déclaration des personnalités de Jérusalem en 14 points lui paraît prometteuse plus que pragmatique et pouvant s'accorder au principe de l'autonomie fixé à Camp David. Shamir, inquiet de la dégradation de l'image d'Israël aux États-Unis, semble se montrer souple en relançant le projet d'autonomie. Le secrétaire d'État et ses conseillers veulent aller au-delà de Camp David, inacceptable pour les partis arabes. Reagan et son dernier conseiller à la sécurité nationale, Colin Powell, vont dans le même sens. Dans son message au Congrès, le 25 janvier, le président des États-Unis a affirmé que la violence en Cisjordanie et à Gaza constitue un vif rappel des dangers du statu quo et a souligné que les États-Unis et les pays de la région devraient travailler ensemble pour donner aux Palestiniens une raison d'espérer et non de désespérer. Le même jour, Moubarak est à Washington et fait campagne pour son plan avant d'être reçu à la Maison-Blanche. En même temps, Shultz reçoit deux personnalités palestiniennes, Hanna Signora et Abu Rashmi, que les Israéliens ont autorisé à se rendre à Washington. Il leur explique que l'OLP restera en dehors de toute négociation tant qu'elle n'aura pas reconnu le droit d'Israël à l'existence, la résolution 242, et procédé à un abandon public du terrorisme. À la fin du mois de janvier, l'initiative de Shultz est prête avec tout un calendrier. En mars, arrêt de la violence et de la colonisation. En avril, début des négociations sur l'autonomie. En octobre, conclusion de l'accord sur l'autonomie. En novembre, élection générale israélienne. En décembre, palestinienne, pardon. Je pense que ce n'est pas israélienne. En décembre, début des négociations sur le statut final, même si celles sur l'autonomie ne sont pas achevées. C'est la nouveauté de l'initiative Shultz, une imbrication, interlock en anglais, entre les négociations sur l'autonomie et celles du statut final. En janvier 1989, il y aura les élections pour l'autorité d'autogouvernement palestinienne, self-governing pour autorité de gouvernement. Ce sont des termes qui sont intraduisibles en français. Dans les textes de l'entre-deux-guerres, les Français traduisaient self-government par libre gouvernement, qui est beaucoup plus beau que autogouvernement, qui est la traduction littérale de l'anglais. En février, l'autorité prendra ses fonctions à un moment où, au début de l'initiative, est prévue une conférence internationale ou un événement de ce genre pour marquer le démarrage du processus. Dans la perspective du secrétaire d'État, l'imbrication permettra de faire passer l'autonomie auprès des Arabes, puisqu'elle ne sera pas un substitut pour le statut final. C'est une proposition suffisamment alléchante pour inciter les Palestiniens des territoires à participer. Shamir semble vouloir accepter l'initiative tout en marquant qu'il s'en tient strictement à Camp David. Il ne peut pas se permettre de rejeter abruptement l'initiative, mais il est bien décidé de s'y opposer. Philippe Rabib et Richard Murphy sont envoyés en émissaire auprès des gouvernements concernés. Le roi Hussein se montre intéressé alors qu'en fait, lui et son entourage sont en train de réévaluer leur politique palestinienne. Ils ont bien compris que les principales forces en présence dans les territoires, l'OLP, les islamistes et les personnalités nationales, rejettent l'implication, l'influence jordanienne. Mais on ne peut pas se permettre de dire non à un secrétaire d'État prêt à relancer un processus de paix. Dès le 4 février, lors d'une visite officielle à Paris, le roi Hussein marque l'infléchissement en cours de sa politique. Je cite « Je ne sais pas ce qu'est le dernier plan américain parce que je ne l'ai jamais vu, mais je sais que je ne participerai jamais à des conversations sur l'autonomie des territoires occupés, car il est clair que le lieu pour l'examen de pareilles questions est la conférence internationale dans le cadre des résolutions 338 et 342 du Conseil de sécurité. Les 242, pas 342. Tandis que le roi Hussein marque que l'option jordanienne n'existe plus, Shamir fait connaître son opposition à toute imbrication. On abordera la question du statut final qu'une fois achevée celle de l'autonomie. Le 9 février, Schulz expose ses idées principales dans une conférence publique. Il marque que son initiative est fondée sur la résolution 242 et l'échange de territoire contre la paix. Shamir délègue immédiatement un député de son parti, Ehud Olmert, à Washington pour faire savoir qu'un tel échange est impensable. Alors que le roi Hussein exige une conférence au Forum international, Shamir ne veut pas en entendre parler. D'où la caricature suivante, qui est une caricature dont Schulz aimait beaucoup. Au moins, ils sont d'accord pour quelque chose, c'est-à-dire le Palestinien, l'Israélien et les autres sont en train de frapper au sol le secrétaire d'État. Voilà, donc, s'il a mis cette caricature dans ses mémoires pour marquer l'intérêt qui se reconnaissait dans ce dessin. À la fin février, Schulz entame une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il invite les personnalités palestiniennes à le rencontrer le 26 février. Le commandement unifié, dans son communiqué numéro 8, appelle à un boycott complet du secrétaire d'État et à une grève générale de protestation. Je cite. « Nous ne reculerons pas et personne ne fera avorter notre révolution et notre soulèvement comme l'a tenté Moubarak par son initiative douteuse ou encore Murphy et Schulz par leur projet hideux rejeté par notre peuple qui rejette même leur visite douteuse. Nous mettrons ainsi en garde contre toute tentative de contournement ou de désorientation de notre soulèvement et nous appelons nos masses à assiéger et à écraser les éléments capitulaires qui répondent aux avances des ministres américains des Affaires étrangères. Nous appelons également à marginaliser les hommes de main de la Jordanie. La colère impétueuse de masse est déclarée face à Schulz, le délégué de l'impérialisme américain, venu apporter un nouveau soutien aux sionistes et au plan de conspiration contre notre peuple. Que la réponse de nos masses à sa visite et à ses projets soit davantage encore d'intensification et de rejet. » Fin de citation. Le message est clairement souligné de Tunis. Il n'y aura pas de négociation sans l'OLP. Néanmoins, le secrétaire d'État fait une déclaration publique à destination des Palestiniens. La participation palestinienne au processus de paix est essentielle pour son succès. Les droits légitimes des Palestiniens doivent être assurés de telle façon à assurer la sécurité israélienne. Il faut entamer au plus tôt possible les négociations et obtenir rapidement des résultats. À Amman, l'entourage du roi qui est à Londres fait savoir que l'on approuve les idées de Schulz, mais qu'il faut s'adresser à l'OLP. En Syrie, Assad marque le préalable de toute négociation et la rétrocession du Golan. Schulz continue la navette et Shamir marque son refus inébranlable de toute conférence internationale. Le secrétaire d'État tente de faire comprendre à certains interlocuteurs qu'il pense à une sorte de souveraineté limitée pour les Palestiniens. Le 1er mars, il retrouve le roi Hussein à Londres qui s'en tient à la conférence internationale et à la participation de l'OLP. Le secrétaire d'État s'adresse le 14 mars à tous ses interlocuteurs dans une lettre reprenant les termes de son initiative qui est destinée à être immanquablement rendue publique. En général, ce sont les Israéliens qui procèdent aux fuites des documents confidentiels. Si l'échéancier est maintenu, il est maintenant question d'une délégation jordano-palestinienne. La période transitoire commencera 3 ans après la conclusion de l'accord sur l'autonomie, définie maintenant comme une transition de 3 ans. Une conférence internationale sera tenue 2 semaines avant le début des négociations. Elle comprendra les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et les parties intéressées dans le conflit israélo-arabe. Tous les participants devront accepter les résolutions 242 et 338 et renoncer à la violence et au terrorisme, ce qui ouvre la possibilité d'une participation sur cette base de l'OLP. La conférence n'aura pas le pouvoir d'imposer des solutions ou de mettre des veto sur les accords obtenus bilatéralement. Le dossier palestinien sera traité dans une négociation bilatérale entre la délégation israélienne et la délégation jordano-palestinienne. Ce projet constitue une avancée considérable sur un certain nombre de points, en particulier sur celui des calendriers, mais passe totalement sous silence la question de la colonisation israélienne des territoires occupés. Bien évidemment, Shamir développe toutes les pratiques polies de l'obstruction en faisant monter au créneau tous les amis d'Israël aux États-Unis. C'est une capitulation devant le terrorisme et la violence. Israël a commis d'énormes sacrifices aux accords de Camp David et ne peut accepter leur annulation. Lors de sa visite aux États-Unis à la mi-mars, le premier ministre israélien bénéficie d'un très large soutien de la communauté juive américaine et se montre inébranlable dans ses discussions avec les responsables américains sur la question de la conférence internationale. Il s'en tient à la lettre des accords de Camp David, une période intérimaire de 5 ans avant d'aborder la question du statut final. Schulz marque le coup, mais réplique en invitant à le rencontrer le 26 mars deux universitaires américano-palestiniens, Edouard Saïd et Ibrahim Aboulourod. Ces deux universitaires sont membres du CNP, du Conseil national palestinien. Les deux palestino-américains transmettent un message d'Arafat proposant l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix dans les territoires et se font les avocats de l'OLP. Les amis d'Israël protestent avec véhémence contre cette prise de contact, mais le secrétaire d'État peut légitimement répondre qu'il ne lui est pas interdit de recevoir des citoyens de son pays. L'OLP qualifie d'importante cette réunion considérée comme une prise de contact avec les États-Unis. De fait, le département d'État fait passer le message que contre l'acceptation des résolutions 242 et 338 et l'abandon du terrorisme, l'OLP pourrait participer à la conférence. S'en tenir à l'ensemble des résolutions de l'ONU comme le fait Arafat est une position de propagande inacceptable car mises ensemble, elles s'annulent mutuellement car elles sont par nature partisanes vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire, en clair, que certaines des résolutions en question, c'est-à-dire celles de l'Assemblée générale, reconnaissent le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Schulz fait une ultime event tournée au Moyen-Orient au début d'avril 1988 et ne peut qu'enregistrer l'inflexibilité des acteurs principaux. Publiquement, il endosse un certain nombre de positions israéliennes, non à des négociations avec l'OLP, non à un État palestinien, non au retour de frontières de 1967. Il comprend les aspirations ethniques des Palestiniens et rappelle sa préférence pour une confédération jordano-palestinienne. Au début du mois de mai, Rabin précise ce qu'il appelle un compromis, je cite. Je suis prêt à une solution de compromis sur un territoire dans lequel 1 400 000 Palestiniens pourraient résider. Cela ne signifie pas un retour aux frontières d'avant la guerre de 1967. Jérusalem doit rester la capitale d'Israël. 60% des territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza devraient être réunis dans un ensemble jordano-palestinien avec une souveraineté, un gouvernement, un drapeau et une capitale Amman. Donc, en clair, c'est toujours le plan Allon qui est dans les perspectives de Rabin. Tout se passe comme si Peres et Rabin, avec des rhétoriques différentes, s'en tiennent justement au plan Allon, sans le dire explicitement, tandis que Shamir proclame un attachement formel aux accords de Camp David, sans même avoir la volonté réelle de les appliquer, en ce qui concerne l'autonomie palestinienne. Le gouvernement d'Union nationale interdit toute prise d'initiative israélienne, ce qui correspond au but réel de Shamir, maintenir le statu quo politique tout en continuant la colonisation. En fait, en clair, la différence de vue entre la droite et la gauche israélienne est réelle, mais elle est seconde du point de vue des Palestiniens. C'est-à-dire que la droite israélienne veut l'annexion de la totalité des territoires occupés, tandis que la gauche israélienne pour des questions de population ne veut qu'une annexion partielle des territoires occupés, généralement de l'ordre de 30 à 40%, plus Jérusalem, puisqu'il faut comptabiliser Jérusalem en plus. Et Jérusalem, ce n'est pas simplement Jérusalem, c'est un morceau assez gros de la Cisjordanie qui est inclus dans les limites territoriales de la municipalité Jérusalem. Alors, la différence est très réelle du point de vue des principes, hein, puisque il y a bien rétrocession du point de vue de la gauche israélienne, donc abandon de la relation symbolique avec l'ensemble de la terre d'Israël. Mais ça ne change rien en pratique pour la population palestinienne, puisque les deux positions sont totalement inacceptables. Alors, au sein de la droite israélienne, vous avez aussi des certaines variables, parce que vous avez des gens très sincères, comme Moshe Arendt, par exemple, qui sont partisans d'une annexion totale, y compris en faisant de la population palestinienne des citoyens d'Israël, tandis que d'autres, plus pragmatiques, pour des raisons démographiques, veulent une autonomie de la population arabe qui s'occuperait de ses propres affaires à un niveau à peu près municipal, mais sans aucun droit de territoriaux ou droit de souveraineté, ce qui permettrait de ne pas les avoir comme citoyens israéliens. Donc là, nous allons faire une pause parce qu'on va aborder un nouveau chapitre la fois prochaine. Et nous allons faire naître le Hamas.